helper, sucker.
Bonjour à tous, après plusieurs mois d'attente et de crispation pandémie oblige, nous avons enfin entamé le dernier droit de la MLS. Il ne reste que 3 semaines avant de savoir quels clubs vont pouvoir se battre pour cette coupe de la MLS lors des séries éliminatoires. Comme d'habitude, Adi Raphaël, je suis à la baguette aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Mathias Van Alst, chef d'orchestre du podcast Coup Franc, dédié à l'Impact de Montréal et grand maître de la prose. Salut Mathias, ça va bien aujourd'hui?
Salut à tous, oui, ça va très bien.
Ouais, ben cool. Ben écoute, aujourd'hui, on va faire un petit programme un peu original. On va essayer d'être le plus original possible et on va appeler ce programme-là MLS Blitz. Alors, je vous explique un peu le concept. Le but, c'est de parler de chacune des franchises de la MLS. Donc, on en a 26. Par contre, on ne voulait pas que ça prenne 75 heures, bien évidemment. Donc, on a décidé de se limiter à 2 situations dans chacune, pour chacune des franchises où, et Mathias et moi, on aura 30 secondes afin de parler de ces situations-là. Donc, finalement, ce sera 1 minute par personne, par franchise. Et à ce moment-là, ça devrait faire en sorte de rester dans les environs d'une heure. Est-ce que tu es prêt, Mathias?
Je suis prêt. Allons-y.
Tu es prêt. Parfait. Ben, on va suivre la logique. On va commencer. On va suivre en fait le classement parce qu'il ne reste que 5 matchs. Pour la plupart des équipes avant la fin de la saison. Il y en a certaines qui ont un peu plus de matchs à jouer. Et on arrive à un moment où on veut voir où on en est dans cette course aux séries. Donc, on va aller à partir du classement. On commence par la conférence de l'Est et avec le Toronto FC, le gros Toronto FC. Et j'aimerais te poser la première question. Ils sont maintenant qualifiés pour les séries. Est-ce que pour toi, c'est le temps de faire jouer les jeunes? Ou est-ce que c'est important de remporter le Supporter Shields et d'être premier lors de cette saison 2020?
Ah, c'est clair que l'avantage du terrain, mais ça c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment on va avoir lieu la phase finale dans cette ère de crise sanitaire. Pour moi, c'est un petit peu entre les deux en fait. Surtout, il faut garder l'élan. Ils sont peut-être pas obligés de tout jouer à fond, mais il faut surtout pas rentrer dans une spirale négative au moment de commencer la phase finale. Donc, Greg Vanney doit bien gérer son effectif pour que tout le monde soit en forme. Intégrer les plans B pour qu'ils soient prêts en cas de besoin, ce qu'il fait déjà. Donc, c'est ça un peu la rotation, mais pas faire jouer une équipe B avec juste des jeunes.
Pile poil, 30 secondes, mon cher Mathias. Moi, je vais dire un peu autre chose. Moi, je trouve qu'il faut qu'ils se battent pour le Supporter Shield. Ce serait vraiment le deuxième Supporter Shield pour Toronto après celui de 2017. Par contre, je pense qu'il peut un peu faire un peu des deux comme toi, mais je pense qu'il peut commencer à faire vraiment une grosse rotation après le match contre Philadelphie. Donc, il a match contre Atlanta, match contre Philadelphie le 24 octobre. Puis après, il lui restera 3 matchs, Greg Vanney, pour faire jouer les jeunes. Donc, ça, c'est mon point de vue sur cette question-là. Deuxième situation, on a un collectif très bien huilé du côté de Toronto FC, des postes doublés, énormément d'armes et de choix pour Craig Vanney. Est-ce que tu penses que Pozuelo, Alejandro Pozuelo, est aussi indispensable que ça?
Bah évidemment, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est probablement lui qui va être élu joueur de l'année en MLS, en tout cas ce serait mon premier choix et je pense qu'il est le premier choix de beaucoup de monde. Il met les autres en valeur, notamment Piatti qui, sans lui, est méconnaissable. Donc, pour gagner chaque match, non. Il n'y a pas besoin forcément de Pozuelo contre certaines équipes et dans certaines situations. Mais sans lui, c'est vraiment pas pareil. Donc, oui, il est indispensable.
Tu sais quoi, je te rejoins et en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment accentuer, te donner encore plus d'outils à ton argumentation. C'est la pièce centrale du collectif. Et depuis qu'il a rejoint la MLS, Pozuelo a manqué 3 matchs de la saison régulière avec Toronto FC et il y a juste 1 victoire, 2 défaites. Et en tant que remplaçant, 1 victoire, 1 défaite. Puis on se rappelle lors de la finale du championnat canadien l'année passée, défaite de Toronto 1-0, Pozuelo est sur le banc au début du match. Donc, je pense que ça prouve qu'effectivement, il est indispensable. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, voilà pour Toronto FC. On va passer directement à l'Union de Philadelphie, l'Union dont tout le monde tresse les louanges et nous parle de cette équipe-là au collectif extrêmement intéressant. Est-ce que tu penses que c'est l'année ou jamais pour l'Union de Philadelphie avant le départ de Brandon Aaronson? Pour ceux qui n'ont pas suivi, Brandon Aaronson a été acheté par le Red Bull de Salzbourg. Ou est-ce que tu penses que l'émergence de Fontana, qui est le nouveau milieu offensif de 21 ans, qui a marqué déjà 5 buts, est-ce qu'il va pouvoir combler le départ de Brandon Aaronson?
C'est impossible à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une occasion à saisir cette année. Il faudra aussi voir comment l'argent d'Aaronson sera utilisé, comment son départ sera comblé, parce qu'on parle souvent d'année ou jamais, parce qu'il y a tel joueur qui sont là en ce moment, mais il ne faut pas oublier qu'ils vont recruter cet hiver et puis qu'il y aura peut-être d'autres départs. Et puis, il faut trouver un joueur qui, comme Aaronson, permet à l'équipe de briller dans plusieurs configurations de jeu. Faudra pas non plus penser toujours que les jeunes prendront forcément la relève, tout en leur laissant évidemment pas mal de place. Cette année, il y a une occasion à saisir, mais rien ne dit que Philadelphie ne compensera pas le départ d'Aaronson et ne servira pas de l'argent pour être encore plus fort l'année prochaine.
Ouais, bah écoute, je suis un peu, bah là, je suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, je pense que c'est l'année ou jamais pour l'Union de Philadelphie. Je pense que leur milieu de terrain, même s'il a pu changer dans les trois dernières années, on a Bedoya qui est, je pense, une pièce extrêmement importante du milieu. Il a déjà 33 ans et on voit déjà qu'il commence parfois à un peu ralentir. Il signale qu'il débloque souvent des situations, même s'il n'est pas titulaire. Il a déjà 35 ans. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver quelqu'un qui est aussi bon à débloquer des situations techniquement? Et je pense que la vision de jeu d'Aaronson est juste tellement au-dessus de la moyenne que c'est très difficile de trouver pareil. Après, Fontana amène autre chose en marquant des buts. Donc, comme je l'ai dit, 5 buts en 11 matchs déjà. Mais je pense que cette année, l'Union a toutes les cases qui sont cochées pour pouvoir aller aussi loin possible. Et je pense que c'est l'année ou jamais de mon point de vue à moi. La deuxième situation du côté de l'Union de Philadelphie, est-ce que tu penses que l'Union prouve que la MLS Super Draft est maintenant dépassée? On s'entend que l'Union a vendu tous ses picks de draft lors des deux dernières drafts. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Mathias.
Je trouve ça amusant comme situation et c'est sympa que tu la mettes en avant parce qu'avant, c'était une équipe, il y a quelques années, qui misait beaucoup sur le Super Draft. Mais il prouve clairement que si tu fais du bon boulot dans ton école de jeunes, tu sortiras des jeunes qui sont meilleurs que des types de 23 ans qui n'étaient pas dans un encadrement de club, ce qui est on ne peut plus logique. Donc, la Super Draft dépassée, bah, la Super Draft, elle sert pour ceux qui font peut-être pas du bon boulot dans leur école de jeunes et ça reste quand même des choix hasardeux. Évidemment, chaque année, il va y avoir des joueurs qui vont en sortir qui sont intéressants, mais pas suffisamment et tu peux pas deviner à l'avance par rapport à des jeunes que tu as chez toi depuis plusieurs années.
Bah écoute, c'est vrai et je pense que tu as vraiment visé le bon point. C'est ça dépend quel type de modèle ton club suit. Donc si jamais tu as pu développer ton académie, tu as pu faire en sorte que ta structure ait du sens, à ce moment-là, oui, c'est sûr que la MLS Super Draft est un peu moins importante. Mais quand tu as des clubs qui viennent tout juste d'être des clubs d'expansion, qui n'ont pas eu le temps de tout bien construire comme il faut, ils ont été créés il y a un an ou deux, bah je pense que la Super Draft est encore très intéressante. On trouve encore de très bons joueurs lors de cette Super Draft, même dans les deuxième et troisième tours. C'est beaucoup plus difficile, mais par contre, tu peux trouver de très, très bons joueurs. Je ne vais pas en nommer, mais il y en a beaucoup. On peut parler de plusieurs équipes où il y a des joueurs de Super Draft qui ont performé. Donc voilà pour l'Union de Philadelphie. On passe au troisième, c'est le Crew de Columbus. Le Crew de Columbus est troisième maintenant de l'Est. Il y a une dégringolade du côté du Crew avec juste un seul nul et trois défaites lors de ses quatre derniers matchs. Est-ce que cette dégringolade est inquiétante ou juste anecdotique, selon toi, Mathias?
À Columbus, c'est une équipe très talentueuse, mais qui est de plus en plus prévisible. Hein. C'est une équipe qui pose son jeu, qui centre au cordeau. Et quand Zela Ryan n'est pas là, je vais dire que c'est un petit peu stéréotypé. Donc, si tu fermes les bonnes portes, Columbus ne trouvera pas forcément les clés pour ouvrir les autres. Et Montréal l'a très bien montré, d'ailleurs. Et c'est intéressant que Montréal ait joué contre Columbus et Philadelphie, l'un à la suite de l'autre, parce que collectivement, j'ai été davantage impressionné par Philadelphie.
Oui, c'est sûr. Après, je pense que Philadelphie est là depuis, a beaucoup plus de temps, a eu beaucoup plus de temps. Curtin a eu beaucoup plus de temps avec Philadelphie que Porter avec Columbus. Par contre, moi, je pense que c'est une dégringolade qui est pour moi anecdotique. Pourquoi? Parce que je pense que chaque équipe en MLS et dans toutes les ligues du monde va connaître un moment de moins bien. Et je pense que c'est là que le Crew est en train et en plein dedans, en fait. Il est dans ce moment de moins bien-là. Puis je suis sûr qu'il a les armes nécessaires qu'est le Porter et il a l'intelligence et la tactique nécessaire nécessaire pour pouvoir remonter la pente. Par contre, je pense que les derniers matchs de la saison seront très importants. Il faudra finir sur une note positive pour pouvoir continuer sur la même lancée en pleine série éliminatoire. La deuxième question, est-ce que tu penses que Columbus a une chance de remporter la MLS Cup? On a vu qu'ils ont survolé la saison avant cette petite dégringolade-là, cette petite chute-là. Est-ce que tu penses qu'ils ont cette chance-là?
Bah, déjà que d'habitude, je dis que la phase finale, c'est comme un jeu de fléchettes. Dans les circonstances actuelles, c'est encore pire. Il y a tellement d'aléas cette saison. On parle de la crise sanitaire, puis on ne sait pas encore trop comment ça va avoir lieu. Alors, tu ajoutes à ça les habituelles formes du moment et la compatibilité ou non avec le style de jeu de l'adversaire, qui fait que si tu tombes sur un adversaire qui est le seul qui peut te contrer, ben, il va te battre même si tu as la meilleure équipe. Et si tu es une équipe très moyenne, mais que tu tombes sur des adversaires qui te conviennent, ben, tu peux aller en finale et gagner. Honnêtement, c'est impossible à dire.
C'est impossible à dire. Effectivement, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un jeu de hasard et je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, si jamais je le regarde sur papier, que je regarde un peu les postes qui sont là, les joueurs qui sont là au poste clé, je pense que Columbus a ce qu'il faut pour pouvoir au moins avoir la chance de se battre pour une Coupe MLS. Comme on regarde comme d'autres équipes, on va en parler un peu d'autres équipes à travers la MLS, ils n'ont pas les armes qu'il faut, tandis que Columbus, je pense, ils ont ces armes-là. Donc, je dirais oui, ils ont cette chance-là si jamais ils sont dans un bon jour à chacun de leurs matchs. Passons au quatrième club du côté de l'Est, c'est Orlando City, qui nous a impressionnés lors du tournoi MLS Is Back. Ils sont invaincus depuis le 22 août. Est-ce que tu penses que Orlando peut le rester, donc peut rester invaincu jusqu'à la fin de la saison régulière, sachant qu'ils jouent à New York contre les Red Bulls, à Miami contre l'Inter Miami, contre Atlanta, à Montréal et contre Nashville?
Ben, je vais te rejoindre un peu avec ce que tu disais avec Columbus. Il y a des équipes qui ont un creux, donc s'ils n'ont pas de creux, je pense que c'est possible parce que Orlando, c'est toujours des matchs serrés, à rares exceptions près, mais c'est une équipe assez complète qui s'est trouvé des solutions différentes devant, qui a très peu de faiblesses derrière, sauf le jeu de tête. Et s'ils jouaient contre Portland et son armada aérienne avec Ebobissé, Mabiala, Niesgoda, etc., là, je dirais que leur invisibilité serait davantage mise en péril, mais je pense que s'ils n'ont pas de creux, oui, c'est possible.
Ouais, moi aussi, je pense que c'est possible. On s'entend déjà, les cinq clubs contre qui ils vont jouer, ce ne sont pas plus du tout des locomotives en MLS. C'est tous des clubs qui sont en dessous d'eux dans le classement. Par contre, c'est des clubs qui vont vouloir vendre cher leur peau. Je ne dirais pas qu'ils vont gagner les cinq matchs. Par contre, ça ne m'étonnerait pas de les voir finir invaincus lors de ces cinq prochains matchs de mon côté à moi. La deuxième situation par rapport à Orlando, Oscar Parreira, le nouveau coach d'Orlando qui on donne beaucoup de crédit sur la forme d'Orlando cette année. Est-ce que tu penses que Parreira est playoff compatible, sachant que depuis qu'il est en MLS, même du côté de Dallas, il avait beaucoup de mal lors des playoffs? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème Parreira en playoff?
Est-ce qu'il est playoff compatible? Je vais un petit peu jouer le jeu de l'émission pour essayer de gagner du temps avec les 30 secondes par réponse et je vais juste te répondre pourquoi pas.
Ouais, ben c'est sûr. pourquoi pas, effectivement. Ben écoute, je pense que le problème de Parreira, c'est quand il construit ses effectifs, il lui manque toujours ce petit joueur qui crée une étincelle. Et on l'a vu du côté de Dallas, oui, il y avait de bons joueurs, mais il n'y avait pas ce joueur au-dessus du lot. Tandis que cette année, il a ce joueur au-dessus du lot avec Nani. Donc moi, je pense que Parreira, c'était pas une question d'être compatible ou non. Je pense que c'était une question de joueur qui était disponible pour lui, et je pense que cette année, il sera compatible, contrairement aux années précédentes. On passe au cinquième club, les Revolution de la Nouvelle-Angleterre, cinquième. Ils s'étaient considérés comme vraiment des favoris, même un ogre. Plusieurs disaient qu'ils allaient finir premier de l'Est ou même gagner le Supporters' Shield. Est-ce que tu penses que New England est décevant cette année?
Bah, dans ta question avant, tu parlais de préparation de la saison, vous êtes considéré comme un ogre, mais la préparation de la saison, ça ne veut absolument rien dire. Poser la question à Thierry Henry, vous l'avez entendu assez souvent répondre à ça, et puis l'impact, c'est le contraire d'ailleurs. La préparation, c'était un petit peu coussi coussa, puis la saison avait bien commencé.
Oui, c'est vrai que c'est difficile prévoir les choses en pré-saison, mais ils avaient tellement bien fini la saison passée, on s'attendait à beaucoup plus. Pour moi, New England est décevant quand on regarde et qu'on se fixe sur le classement en tant que tel. Par contre, si vous voyez les problèmes que Bruce Arena a dû se confronter durant la saison, je peux comprendre pourquoi New England est ici. Beaucoup de blessures, ben, la blessure de son joueur clé qui est Carlos Gil, qui devrait revenir bientôt. On a Peña qui est blessé présentement, Bou qui a eu des blessures aussi. Et je pense que les trois meilleurs joueurs, et si jamais ils étaient disponibles en tout temps, on aurait eu un autre, d'autres Revs de la Nouvelle-Angleterre, je pense, et un autre classement à présent. Et en parlant de ces trois gros joueurs, beaucoup parlent de Gustavo Bou étant un joueur qui est malheureusement pas assez bien coté, donc il est sous-coté. Est-ce que tu penses qu'il est apprécié à sa juste valeur, Mathias?
Oui, moi je pense pas du tout qu'il soit sous-coté. Je trouve qu'il est pas assez complet pour être un attaquant de MLS. Il faut souvent être bon de la tête sur les centres et c'est pas sa force. Il aime le jeu au sol, il aime passer par l'axe. Et pour qu'un joueur comme ça se mette en valeur régulièrement, il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies. Là, par exemple, il est quand même pas mal dépendant de Carlos Gil au LAFC. Par contre, ce genre d'attaquant peut se mettre en valeur et a pu se mettre en valeur grâce à l'entrejeu l'année passée. Donc peut-être que cette saison, il aurait pu donner un coup de main au LAFC avec la blessure de Carlos Vela. Mais pour en revenir à Bou à New England, je trouve aussi qu'il est parfois en dilettante, qu'il est moins impliqué dans la construction du jeu qu'apparemment, ce que j'ai pu lire un petit peu sur son passé, il était au Mexique. Peut-être qu'il prend un peu la laisse de haut parfois et qu'il se repose trop sur son talent.
Mais ça a l'air, je pense que comme tu l'as dit tu l'as, en début de réponse, ça a donné son profil, qui est quelqu'un qui aime le jeu au sol. Et je pense que si jamais on avait un joueur un peu en tour de contrôle avec Bou qui tourne autour de lui, ça aurait très bien marché. Par contre, Bouxa a l'air, qui est le joueur qui était supposé remplir ce rôle-là, et parfois un peu décevant. Donc je pense que Bou n'est pas aidé par Bouxa et bien évidemment par les blessures de ses compères aussi, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc je pense non, il est apprécié à sa juste valeur, selon moi. Je suis d'accord avec toi, Mathias. On passe au prochain club. Écoutez, on essaie de faire ça vite, c'est pour ça que ça s'appelle le MLS Blitz. Et le prochain club, c'est New York City FC. Écoute, New York City FC, sixième maintenant. Grosse surprise avec le départ de Alexandru Mitrița pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu penses que ce départ-là peut être encore complet?
Ouais, il faut quand même faire attention dans l'avion et avoir la distanciation sociale avec Saphir Taider. Pour répondre à ta question plus sérieusement, oui, je pense que le départ peut être comblé. C'est un bon joueur, Mitrița, qui apporte un plus, mais pas forcément quelqu'un qui fait souvent la différence. Et pour être franc, son passage à New York City, ça ne peut pas non plus être qualifié d'une franche réussite. Je pense qu'il va vite être en jeu au rang des joueurs intéressants, sans plus, qui sont passés par là.
Parfait. Ben écoute, moi, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, Mitrița a été un excellent joueur et je pense qu'il était c'était un joueur clé du système de Ronnie Deyla. Malheureusement, bon, il est souvent blessé. En tout cas, depuis qu'il est venu en MLS, il a été souvent blessé. Mais aussi, il n'a pas été assez décisif et je suis d'accord. Mais je pense que c'était plus une question de système, le fait de changer d'entraîneur. Je pense qu'il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi où il peut être comblé parce qu'on a beaucoup de joueurs de talent du côté de New York City FC, il faudra juste trouver un moyen de les garder en santé pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans le futur. Avec deux défaites lors des 12 derniers matchs, New York City FC est-il un club qu'on peut négliger avec 7 victoires, 3 matchs nuls et juste 2 défaites? Est-ce que tu penses que c'est un club qui peut être négligé?
Non, certainement pas. Et il faut quand même voir le calendrier qui n'a pas été des plus difficiles. Mais cela dit, justement, ça a permis à l'équipe de trouver ses marques, de peaufiner son jeu sous Ronnie Deyla. Donc ça a bien servi à New York City, même si offensivement, ils sont encore un peu courts. Défensivement, c'est solide. Et on voit par rapport au début de saison qu'il y a davantage de réactivité dans cette défense sur les situations qui partent un petit peu dans tous les sens et n'importe comment. Donc avec cette défense solide, il ne faut clairement pas les négliger.
Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, j'ai été très critique envers cette défense-là, que j'ai toujours trouvé très, très faible, Kayens Chano. Malheureusement, ben, il me prouve comme quoi j'avais tort, parce qu'effectivement, ils sont de loin meilleurs sous Ronnie Deyla. Après, comme je l'ai dit, je pense que c'est une question aussi de santé et de joueurs blessés. Si jamais Morales revient, Hébert revient, à ce moment-là, je pense, et avec Castellanos devant, je pense qu'on est capable d'être un très très bon adversaire et d'aller très très loin lors des séries éliminatoires ou même lors de la saison régulière en premier et les séries éliminatoires après. Passons au prochain club, les New York Red Bulls, qui quand même se retrouvent à la 7e position. Je les voyais beaucoup plus bas, moi personnellement, vu qu'ils sont bien moins flamboyants que dans le passé. Les jeunes, ils arrivent quand même à tenir la baraque. Est-ce que pour toi, c'est un système viable à long terme, Mathias?
Sur les années, non, parce que l'expérience, ça s'acquiert aussi grâce aux joueurs qui partagent cette expérience. Et en plus, le niveau de la MLS monte assez rapidement. En plus, ces jeunes, s'ils sont bons, ils ne vont pas rester. D'autres qui sont bons, mais vont avoir des moments un peu plus difficiles. Donc, il y a beaucoup d'instabilité à ce moment-là si tu mises juste sur eux. Et ça non plus, ce n'est pas bon pour le long terme.
Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça marche pas à long terme et j'en ai parlé plusieurs fois ici sur ce podcast. Je pense que c'est pas quelque chose qui marche. Il faut que tu aies des joueurs confirmés qui soient là, qui restent 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour pouvoir un peu donner le flambeau à d'autres vétérans. Mais il faut que ces vétérans-là soient là sur le long terme et que ce soit des vétérans de très, très bonne qualité pour que ça marche. Je pense que le système des Red Bulls n'est pas des meilleurs maintenant. Deuxième situation, la grosse sensation, Caden Clark, pour toi, future star ou feu de paille avec 2 buts en 2 matchs?
Bah, c'est impossible à dire sur 2 matchs. En plus, je n'ai pas vu les 2 matchs, donc ça n'aide pas. Et il y a aussi beaucoup de possibilités hein, entre future star et feu de paille, donc ce sera probablement quelque chose entre les deux, même si on espère évidemment que ce soit future star.
Ouais, ben c'est sûr, on espère que ce soit future star. Écoute, je ne suis pas trop convaincu, moi, de ce joueur-là. Bon, il a une bonne frappe. Oui, on l'a vu. Est-ce qu'il va pouvoir... Je pense que physiquement, il est un peu trop frêle. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment travailler là-dessus, sur le côté physique, pour voir si jamais il est capable de franchir plusieurs paliers pour devenir une star. Mais comme tu l'as dit, c'est presque impossible à le savoir dès maintenant. En tout cas, c'est deux très beaux buts. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous conseille d'aller les voir. Juste après, la surprise du chef, Nashville SC, qui se retrouve en 8e position. Mathias, qui, à part Anthony de Varenne, rédacteur en chef sur Culture Soccer, s'attendait à une telle saison de Nashville? Est-ce que c'est surprenant pour toi?
Faut se souvenir de ce qu'on disait de Nashville en début de saison. Tout le monde disait que ce serait une équipe aussi chiante à voir jouer qu'à affronter. Et effectivement, c'est le cas. C'est une équipe qui ne gagne pas facilement, mais depuis qu'elle a trouvé ses marques, elle est aussi assez difficile à battre. Maintenant, je vais retourner la question à Anthony de Varenne, hein, qui, à part lui, fait du match de Nashville son premier choix quand il y en a d'autres à la même heure. Pas grand monde, parce que justement, regarder Nashville, c'est pas ce qui est le plus passionnant.
Ouais, ben c'est sûr que c'est difficile à choisir Nashville, déjà que t'as pas de gros stars à Nashville. Par contre, je suis surpris, je m'attendais pas à autant d'aisance pour une première saison, n'ayant pas aussi tous les stars que, par exemple, sa consoeur, l'Inter Miami, qui a acheté des stars à coups de millions. Je suis surpris de voir ça. Par contre, ça prouve aussi que t'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour réussir une première saison ou plusieurs saisons en MLS. Il faut savoir juste construire son effectif, ce que Nashville a réussi. Est-ce que tu penses que Ali Mukhtar, qui est un des meilleurs joueurs de Nashville, si ce n'est le meilleur, est dans le coup pour le titre de meilleur recrue de la saison?
Ça va être difficile. Il faut quand même une équipe qui se mette en valeur. Et en plus, pour ce genre de plébiscite, les statistiques pèsent lourd. Et dans une équipe qui marque peu, c'est difficile d'avoir des bonnes stats. Ou alors, il faut faire des flamèches. Et là, avec Zeller Ryan et Pulido, il a 2 concurrents énormes. Et je le vois mal entrer en considération face à ces deux.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'aimerais qu'il soit au moins mentionné quelque part parce que je trouve que c'est un joueur très, très, très talentueux. Et je pense que avec le temps, il va être de mieux en mieux. Il va être vraiment meilleur. C'est vraiment un joueur avec une technique irréprochable. Excellente recrue pour Nashville SC. On passe au prochain qui est l'Impact de Montréal, le club que tous les deux on suit le plus près, vu qu'on est Montréalais, toi et moi. Est-ce que tu penses qu'on est à un nouveau plan quinquennal de l'Impact de Montréal? Et pourquoi cette fois-ci, on devrait y croire?
Parce que cette fois, c'est un plan. Même Kevin Gilmour, qui a dit dans les journaux, je ne sais pas comment ça poutait, j'espère qu'il n'avait pas de café en train de boire en ce moment-là, parce qu'il a dû l'avaler de travers. Pour la première fois de l'histoire de ce club, on a un plan. Ça a été écrit dans le journal de Montréal, alors là, je ne sais pas comment l'ancien président l'a pris. Avant, il y avait des objectifs. Mais avoir 3 étoiles au guide Michelin, c'est pas un plan, c'est un objectif. Après, comment on y arrive, ça, on ne nous l'avait jamais expliqué. Maintenant, on voit les intentions, on les sent clairement. Qu'elle soit bonne ou non, ça c'est autre chose, on verra, mais en tout cas il y a une ligne directrice claire.
Je suis complètement d'accord avec toi, je trouve qu'il y a un plan, on a un directeur sportif qui fait un très bon travail jusqu'à maintenant, on a un entraîneur qui commence à donner, un Thierry Henry qui commence à donner, je pense, de très bonnes choses à l'effectif et aux joueurs qui sont en train d'apprendre de lui. Les résultats ne suivent pas encore, mais je pense que si jamais on est capable de maintenir le cap, je pense que l'Impact de Montréal va vers le droit chemin, je suis complètement d'accord avec toi. En parlant de ça, Thierry Henry, coach, bon ou mauvais investissement jusqu'à présent?
Pour moi, bon, très bon même. Et le timing est bon aussi, tant pour lui en raison de là où il en est dans sa carrière que pour le club qui doit se réinventer. Et Thierry Henry, il change l'état d'esprit dans l'équipe, autour de l'équipe surtout, et le style de jeu. Alors, il faut du temps, c'est normal. Mais en plus, avec la crise sanitaire, c'est difficile d'évaluer le changement de cap du président Guillemot parce que les conditions sont un petit peu compliquées. Alors, on ne peut juger que ce qui se passe sur le terrain et dans le recrutement. Et là, le changement de cap, on le voit clairement. Donc, comme il faut que le club se réinvente, c'est bien, justement. C'est un bon investissement.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, je vais le dire, je pense que je l'ai dit ici sur ce podcast-là, j'étais très sceptique quant à la venue de Thierry Henry comme entraîneur. J'avais pas trop aimé ce qu'il avait fait, pas juste à Monaco, mais je sentais que le vibe qu'il me donnait était pas très alléchant. Par contre, jusqu'à maintenant, écoute, il prouve comme quoi, effectivement, il a ce qu'il faut. J'aime ce qu'il a donné à l'Impact de Montréal et je trouve que ce club-là est sur un très bon plan avec Thierry Henry comme entraîneur. Je suis très content de cet investissement-là. Passons au prochain club, le 10e, la grosse déception avec Atlanta United qui est 10e. Est-ce que tu penses que petit à petit, Atlanta se détruit?
Joli le jeu de mots, mais bon appétit à ceux qui sont à table. Avec Almiron et Joseph Martinez, notamment, il y a eu un super recrutement lors de la première saison. Tout le monde prenait pour acquis que le recrutement serait toujours bon à Atlanta, mais finalement, ce n'était pas la règle. On l'a vu, mais justement, avec Pity, avec Barco, puis il y a de l'impatience. Alors, quand on se donne de grands airs de savoir où on va, quand ça fonctionne, surtout dès le début, ça fait très forte impression. Et c'est ce qui est arrivé avec Atlanta. Finalement, ça montre en ce moment que ce club a encore beaucoup de choses à apprendre.
Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le recrutement a été complètement bâclé. Bon, Petit Martinez, c'était difficile quand même de le prévoir. C'était quand même le meilleur joueur en Amérique du Sud. C'était quand même, il a été nommé meilleur joueur de l'Amérique du Sud. Donc, ça aurait été difficile. Mais après, ils ont amené d'autres joueurs qui étaient assez vraiment des joueurs lambda, Rossetto et des joueurs comme il s'appelle, Emerson Hyndman, c'était pas non plus un gros coup, je trouve. Donc bref, et perdre aussi Nagbe, je pense que effectivement, bon, pour moi, je dis oui, Atlanta se détruit, il va falloir retrouver un certain professionnalisme dans le recrutement et savoir trouver les bons endroits pour Atlanta United et non pas juste mettre de l'argent pour en mettre seulement. Par contre, on a un nouvel entraîneur, entraîneur intérimaire qui s'appelle Steven Glass. Est-ce que pour toi, il est parti pour rester? Parce que quand même, il y a quand même un certain mieux du côté d'Atlanta avec 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites dans les 6 derniers matchs. Est-ce que tu penses que Glass a la chance et pourrait avoir cette chance-là de rester en tant qu'entraîneur-chef?
Bof, non, c'est pas terrible, honnêtement. Je suis pas convaincu sur le long terme. Et puis, pour Atlanta, hein, c'est pas un bilan extraordinaire non plus. On verra en fin de saison. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas forcément d'urgence. Et ce qui est important pour Atlanta, c'est de chercher le bon candidat, de voir qui dans l'effectif va rester, qui vont recruter. Il faut de la cohérence entre les joueurs qu'ils vont avoir et ce que l'entraîneur veut faire avec eux. Il faut retrouver la cohérence qu'il y avait au début, en fait, entre Tata Martino et les joueurs qui étaient là et qu'il n'y a plus depuis. Et ça, c'est le plus important. Mais ce ne sera pas avec Glass, selon moi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Mathias. Déjà, un peu, je vais donner un autre argument. Pour moi, Atlanta, c'est une équipe qu'on va l'appeler comme en bon québécois bling bling. Donc, c'est vraiment une équipe qui va vouloir avoir le gros nom en tant qu'entraîneur. Et je pense que même si jamais Steven Glass avait une meilleure fiche, je pense qu'il serait pas resté là parce qu'il fait pas bling bling. Donc, moi, je m'attends à vraiment un entraîneur avec un certain nom qui serait là. Donc voilà, donc je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il sera là longtemps. Passons au prochain club qui est le Fire de Chicago. Est-ce que c'est un club qui est en feu ou au feu?
Ah, le nouveau logo, il est acheté au feu, ça c'est certain. Mais sinon, c'est clairement une année de transition, de reconstruction. On a souvent parlé qu'il fallait laisser du temps. Les conditions actuelles sont compliquées, donc on va leur laisser du temps. Mais on va voir, parce que la dernière fois aussi, on a laissé du temps, puis c'était bien parti, c'était encourageant, puis ça s'est pas amélioré après avec les années. Donc là, il faut faire le boulot, quoi.
Ouais, effectivement, et je pense qu'il y a du bon du côté de Chicago, mais c'est pas encore ça. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut vraiment donner du temps. Il manque quelques joueurs clés dans cet effectif-là, même si ça fait du sens, et on voit le nouvel entraîneur, Raphaël Vicky, vraiment mettre sa patte sur cet effectif-là. Je pense que l'année prochaine, le Fire sera quand même une équipe à vraiment regarder de près si jamais la saison morte se déroule comme ils le veulent. Le prochain sujet du côté du Fire, sur papier, donc comme je l'ai dit, l'effectif est très intéressant. Il est où le problème selon toi?
Il y en a plusieurs. Il y a un manque de cohésion, tant offensive que défensive. Donc forcément, si devant, les joueurs ont parfois du mal à se trouver et que derrière, parfois, il y a des manques de communication et tout, c'est compliqué. Puis il y a aussi un gros manque d'endurance dans cette équipe-là. C'est une équipe qui commence souvent très fort ses matchs, mais qui craque dans la dernière demi-heure. Je pense qu'après un quart d'heure, si on fait le classement, après un quart d'heure, Chicago est beaucoup mieux classé que ça. Et si on fait des classements juste sur la dernière demi-heure, ils sont même pas en considération pour jouer la phase finale, ils sont loin derrière.
Ok, ouais, ben c'est très intéressant ce point de vue-là, Mathias. Moi, de mon côté, je trouve que il y a un problème à Chicago avec, je vais dire, le problème de sélection. Je pense que l'entraîneur, des fois, ne fait pas le bon choix de joueur. Des joueurs comme Mihailovic, pour moi, ça devrait être un joueur mis en avant. C'est un excellent joueur, un bon manieur de ballon. Je pense qu'il devrait vraiment se retrouver dans une bonne position pour pouvoir vraiment être le créateur que Chicago a vraiment besoin. Donc, je pense que c'est juste un problème de sélection de joueurs du côté de Raphaël Vicky. Mais par contre, je pense qu'il s'améliore avec le temps. Il commence à connaître son effectif comme il faut. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps. L'année prochaine, ça devrait être réglé. Passons au prochain. L'Inter Miami, tout le monde s'attendait à une équipe de feu qui remporte la MLS à cause que David Beckham était est le propriétaire, un des propriétaires. Est-ce que tu y crois? Parce que on voit que Miami est en train de remonter un peu la pente. 12e place, oui, mais de bons résultats dernièrement. Est-ce que tu y crois ou je pense que c'est trop peu trop tard, Mathias?
Je trouve que cette équipe est tellement faible offensivement, puis je suis pas sûr que ça s'améliore malgré Higuain. J'espère qu'ils vont pas me faire avaler ma langue lors du match de soir contre Montréal. On verra bien. Je vous conseille d'ailleurs de lire le Québec Soccer de ce mois-ci où il y a un article à ce sujet. Par contre, défensivement, c'est beaucoup plus solide depuis peu. Alors maintenant, est-ce que ça va tenir avec une saison régulière qui touche à sa fin, un calendrier chargé? Ça se pourrait. Par contre, sur le long terme, il manque quand même pas mal d'ingrédients cette équipe-là.
Je suis d'accord avec toi. Il manque trop d'ingrédients à cette équipe-là, et je pense que aussi il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. L'arrivée des deux Higuaín, parce qu'il y a le grand frère qui est venu, pourrait faire du bien. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est pas suffisant pour cette année. Par contre, l'année prochaine, si jamais il n'y a pas trop de chamboulement dans l'effectif, ça peut être quelque chose de très intéressant. À propos de cette équipe, l'entraîneur Diego Alonso, l'Uruguayen, est-ce que c'est l'homme de la situation pour toi?
Non, avec les joueurs actuels, non. Parce qu'ils tentent de les faire jouer comme une équipe du top, mais ça ne marche pas. En Europe, surtout, tu as des entraîneurs qui sauvent souvent des équipes, qui leur permettent de se maintenir. Et après, ils se font recruter par des clubs de haut de classement et ils n'y réussissent jamais. Bah, tu as l'opposé aussi qui semble exister, hein, des entraîneurs qui réussissent avec des équipes du top et qui ont du mal avec des équipes de bas de classement. Et pour le moment, c'est ça qu'Alonso montre. Et ça donne cette impression de lui, en tout cas.
Ouais, ben là aussi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, c'est un entraîneur qui a déjà en tant que joueur joué dans des très gros clubs aussi. Et je pense qu'il est habitué à ça. Puis il a du mal à remarquer qu'effectivement son équipe n'a pas ce talent-là. Complètement d'accord avec toi. Passons au prochain club, un club qui va un peu mieux dernièrement, le FC Cincinnati, mais encore une saison décevante pour Cincinnati à la 13e place. Il y a eu des problèmes en offensive. Dernièrement, on a Franco Kovacevic, un jeune attaquant de 21 ans, qui est arrivé à Cincinnati. Est-ce que tu penses qu'il peut dynamiser cette attaque-là?
Honnêtement, aucune idée, je ne le connais pas assez. Cela dit, on sent que c'est une équipe qui a besoin de travailler parce qu'il y a du talent offensif dans l'équipe, mais la sauce ne prend pas. Cette saison, c'est vraiment un départ de zéro et je ne répéterai pas tout ce que Thierry Henry dit sur le manque d'entraînement et dont Cincinnati a clairement besoin.
Ouais, effectivement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés et je pense qu'il y a eu du mal. On a eu du mal à vraiment trouver un certain collectif et à trouver une façon de les faire jouer ensemble encore. Même si Avstam fait un bon travail, je trouve, depuis qu'il a été nommé. Il faut pas oublier qu'il a été nommé en milieu de saison. La déclaration de Stam, qui a déclaré dernièrement que lui il comprend la frustration des joueurs de pardon des supporters qui ont oublié de mettre leur bannière, qui ont pas oublié, qui ont volontairement omis de mettre des bannières lors du dernier match. Il a dit comme quoi il était déçu. Est-ce que tu penses que c'est une déclaration qui est un peu trop forte?
Mais ce que j'aime de sa déclaration, c'est le côté hey, vous pensez que nous, on n'est pas contents? Que nous, on est contents? Parce que souvent, on oublie que les mauvais résultats, bah, les joueurs et les entraîneurs, ça leur fait très mal aussi. Et ce rappel, qui est quand même assez rare, il ne fait pas de mal. Par contre, dans sa déclaration, on sent clairement de la frustration et ça montre en effet qu'il n'est pas content, surtout que c'était à chaud. Après, on est sûr que les supporters vont aimer. Et il faudrait qu'ils fassent attention de ne pas se les mettre à dos, et donc il faudrait qu'ils fassent en contrepartie quelque chose qui va leur plaire.
Bah, écoute, je suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve que c'est assez difficile que Abstam se mette les supporters à dos parce qu'il est très aimé par les supporters. Et d'un autre côté, c'est Abstam. Qui n'aime pas Abstam? Donc, voilà mon point de vue par rapport à cette déclaration-là. Cette déclaration est quand même une déclaration qui, je pense, donne de l'intérêt à Cincinnati. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de la MLS qui négligent ce club-là. Et je pense que ça donne aussi de l'intérêt. C'est un peu un coup de marketing du côté de Yapstam, de mon point de vue à moi.
100% d'accord avec toi. Je voulais quand même le dire. Je disais rien après tes interventions pour pas perdre du temps, mais là, je trouve c'est important que je trouve que Cincinnati mérite plus d'intérêt.
Ben, c'est parfait, merci. Tu peux commenter quand tu veux, il n'y a aucun problème. Mathias, le dernier club du côté de l'Est, DC United. Le roi est mort, Ben Olsen, vive la reine, Jill Ellis. Vraie bonne idée ou coup de marketing?
Ouais, bah, le roi, c'était un roi un petit peu sénile, quoi, qui était en fin de règne et puis qui demandait vraiment si c'était lui le roi ou s'il y en avait encore un. Mais pour revenir à ta question, je pense que c'est un gros coup de marketing. Je dis pas qu'elle ne réussirait pas, mais lancer des noms si rapidement, c'est un petit peu n'importe quoi. Il y a de la qualité dans cet effectif, mais il faut que quelqu'un, soit qu'il soit au club s'ils ont les compétences, soit qu'il est payé par le club, qui doit étudier cet effectif de très près et déterminer quel genre de coach peut le sublimer. Et ensuite seulement, il faut choisir parmi les entraîneurs qui répondent à ces critères-là. Leur nom, leur réputation, c'est pas une garantie, ni une garantie de réussite, ni une garantie d'échec.
Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est déjà trop tôt. Mais si ça arrive, je serais très content. Je trouve que c'est une excellente entraîneur, Jill Ellis. Puis j'aimerais la voir vraiment en MLS. Ce serait quelque chose d'assez intéressant à voir. Après, bon, c'est un coup de marketing. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, je suis très content que Ben Olsen soit plus là. Ça fait longtemps que me demande pourquoi il est encore en poste. Donc, je pense que c'est une très bonne décision de la part de DC United de se débarrasser de Ben Olsen en tant qu'entraîneur, parce que c'est possible qu'il trouve un poste au sein de la franchise en tant que tel. Maintenant, on a une nouvelle ère qui va commencer. On s'entend que Ben Olsen était là depuis déjà 1998, pas 98, pardon, depuis 2010, pardon, excuse-moi, parce qu'il était là en tant que joueur avant. Par où on devrait commencer la nouvelle ère de ce club-là? Est-ce que c'est au niveau du recrutement, de la tactique, est-ce que c'est au niveau marketing? C'est où que tu devrais commencer?
Bah, pour moi, il faut trouver le club justement. Pour moi, il faut trouver le coach justement qui est capable de sublimer cette équipe, comme je viens de le dire. Et à côté de ça, malheureusement, il faudrait pouvoir remplir le stade. Parce qu'avec un nouvel entraîneur, un stade très récent, une nouvelle ère, il faut qu'à chaque match, les supporters puissent sentir que DC United, version des années 2010, c'est du passé. Et à domicile, au stade, je pense que c'est le meilleur moyen, mais pour ça, il faut pouvoir le remplir.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que le stade va se remplir une fois qu'on a du jeu. du beau jeu, ce que Ben Olsen n'était pas capable de faire. Donc je suis d'accord avec toi, et la première pierre, c'est effectivement de trouver le bon entraîneur. Est-ce qu'on a besoin d'un entraîneur bling-bling? Pas spécialement, mais un entraîneur qui sait jouer du jeu positif, offensif, et capable de mettre en valeur le bon effectif qu'il a, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un bon effectif du côté de DC United. C'est ça qui va clore notre première partie sur la conférence de l'Est. On va se prendre un tout petit pause pour reprendre un peu notre souffle, et on revient au prochain, à la prochaine partie qui est la conférence de l'Ouest. Nous voilà de retour pour ce MLS Blitz. J'espère que vous aimez un peu cette formule rapide pour voir chacune des franchises de la MLS. On continue avec la conférence Ouest. La conférence Ouest, comme d'habitude, on va dire, Seattle Sounders se retrouve au sommet de la conférence Ouest. Pour toi, Brian Schmetzer, qui n'a jamais reçu, et tenez-vous bien, qui n'a jamais reçu le titre d'entraîneur de l'année en MLS, est-ce que pour toi, c'est une anomalie?
Pour moi, l'anomalie, c'est de ne pas remettre les titres à la fin de la saison, mais de le faire à la fin de la saison régulière, comme si les playoffs, ça comptait pas. Ça changerait certainement certaines choses.
Parfait. Ouais, pour moi, c'est une grosse anomalie. Je trouve que c'est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la MLS, si ce n'est le meilleur, avec Bruce Arena et Siggy Schmidt. Mais je pense aussi qu'il y a une autre anomalie. Stephen Fry devrait être souvent nommé comme meilleur gardien de la MLS aussi. Lui non plus n'a jamais eu ce titre-là. Donc voilà, grosse anomalie du côté de la MLS. Donc je te rejoins. Peut-être qu'il faudrait attendre la fin de la saison. Complètement d'accord avec toi. La deuxième situation, la charnière centrale, c'est O'Neill Gomez avec Arriaga qui vient en relève. Est-ce que pour toi, c'est le talon d'Achille de ce club-là?
C'est un club qui n'a pas beaucoup de talons d'Achille, en fait. Défensivement, oui, un peu, c'est le talon d'Achille de la défense, on va dire ça, mais c'est une défense qui reste solide, donc c'est peut-être quand même aussi solide que ce qu'il y a de mieux dans certaines autres défenses. Devant, il y a parfois un manque de réactivité aussi quand l'adversaire perd le ballon ou se rate derrière. Je pense que ce sont les principales faiblesses de l'équipe en ce moment, mais ni d'un côté ni de l'autre, c'est catastrophique, loin de là.
Ouais, écoute, moi je trouve qu'elle tient la baraque, comme tu l'as dit, seulement 17 buts encaissés, mais je pense surtout que c'est le système de jeu de Brian Schmetzer qui aide cette défense-là, parce que c'est une équipe qui a un système de jeu qui est très malléable et qui est très adaptable par rapport à l'adversaire en face, et Schmetzer, il fait en sorte de, des fois on va voir Seattle jouer en contre-attaque, d'autres il va avoir la possession, et je pense que le fait de s'adapter aussi rapidement que ça aide beaucoup le secteur défensif à s'ajuster et à vraiment être performant. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça tient la baraque comme on dit. Prochain club, les Timbers de Portland. Diego Valeri, il a combien de vies selon toi?
Mais Portland en ce moment, je vais remettre ça dans un portrait global, c'est le changement dans la continuité. Il y a assez de continuité pour assurer de la stabilité, garder des certitudes, mais suffisamment de changement pour remotiver, remobiliser les troupes. Par exemple, Blanco, cette saison qui a pris une nouvelle dimension, c'en est une belle illustration. Je ne serais pas surpris que ça joue dans les prestations de Valeri, qui, il a 34 ans. Finalement, c'est vieux, mais... Mais pas tant que ça si tu as encore une certaine forme et si tu as encore du talent et si tu as encore la motivation. Et peut-être que la motivation serait le plus difficile, mais pourtant tu fais ce qu'il faut pour le garder motivé.
Ouais, écoute, moi je vais répondre à la question en disant qu'il a 75 vies. Pourquoi? Parce que même si ses stats ne sont pas aussi performantes, il a 6 buts, 4 passes en 13 matchs, quand même très très bon. Je pense qu'il a été capable de prendre le flambeau avec Sébastien Blanco qui ne sera pas là pour jusqu'à la fin de la saison avec une blessure des ligaments. Donc pour moi, Diego Valeri, je suis impressionné par ce joueur-là, qui n'est plus un joueur désigné, hein, qui est resté à Portland en tant que joueur TAM, ce qui est une grosse surprise. Mais voir un joueur TAM dominer autant, je pense qu'il n'y a pas une équipe dans la MLS qui n'aimerait pas ça. Donc 75 vies pour Diego Valeri. On passe au prochain. Qu'est-ce qui manque pour toi aux Timbers afin de remporter sa deuxième MLS Cup?
Déjà une défense, parce que si tu arrives à gagner la bataille de l'entrejeu contre Portland et la faire reculer, ils souffrent beaucoup. Et il y a des problèmes d'endurance aussi. On parle beaucoup des buts encaissés par Montréal en fin de mi-temps. Si on ajoute ceux encaissés dans le dernier quart d'heure, la première et la deuxième mi-temps, on est à 14. À Portland, on est à 21. Donc je ne suis pas sûr qu'à chaque tour de la phase finale, Portland va tomber sur des adversaires qui seront incapables d'exploiter ces deux énormes faiblesses.
Ouais, bah écoute, c'est vrai, la défense va pas très bien. Par contre, je trouve que l'attaque va beaucoup mieux que dans le passé. Et c'est ça que moi, j'ai comme senti qu'il y a un switch qui a été fait du côté de Savarese, où on a une équipe qui aimait beaucoup jouer en contre-attaque. Puis dernièrement, même si des fois ils jouent en contre-attaque, bien évidemment, je pense qu'ils marquent beaucoup plus que ce qu'ils marquaient dans le passé. Donc, peut-être que c'est une question d'ajustement à un moment donné, mais j'aime bien ce que je vois du côté de Portland. Après, dans les playoffs, je pense que la défense est beaucoup plus importante que l'attaque. On l'a vu l'année passée. Donc, je pense qu'il manque, comme tu l'as dit, de la solidité défensive pour espérer avoir une deuxième MLS Cup. Passons au troisième club, le Sporting Kansas City. J'ai une petite question pour toi, Mathias. C'est quoi le régime alimentaire de Peter Vermes? Parce que chaque année, il se réinvente. Il a eu une année catastrophique l'année passée. Puis là, troisième de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est sa connaissance et du soccer et de la MLS. Le niveau des entraîneurs a énormément évolué en MLS depuis plusieurs années. Et il y a pas mal d'anciens qui n'avaient pas ou plus les qualifications requises, mais Vermes les a, il le prouve. Il fait aussi un gros travail de recrutement qui est régulièrement réussi parce qu'il connaît ses besoins, il observe attentivement les renforts potentiels et il prend lui-même les décisions.
Ouais, effectivement, il est très bon. C'est un très bon manager à l'anglaise. On va l'appeler comme ça parce que c'est lui qui prend toutes les décisions, on a l'impression. Et puis, il est capable. Bon, il faut dire que l'année passée, c'était aussi très spécifique. Il a eu, je pense, à un moment, il avait 15 blessés dans son effectif l'année passée. Donc, je veux pas. Pour moi, j'ai pris l'année passée pour la question, pour donner une certaine crédibilité à la question. Par contre, je trouve que Peter Vermes est encore un des meilleurs entraîneurs à MLS. Et ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Par rapport à ce recrutement-là, Alan Pulido, qui a, je pense, a fait couler beaucoup d'encre le fait que Alan Pulido signe en MLS au Sporting Kansas City. Est-ce que finalement, avec du recul, est-ce que c'est une fausse bonne idée, Mathias?
Bah, ses stats sont meilleures que celles de Zela Ryan et tout le monde en sens Zela Ryan. Donc, je vois pas pourquoi en début de saison j'ai vu quelques fois Kansas City. Pulido était pas mal du tout, mais tout le monde le trouvait extraordinaire. Ça, j'étais pas d'accord. Je trouvais qu'il était surestimé. Là, il joue moins et parfois moins bien pour diverses raisons. Il est un peu moins en forme à l'équipe nationale. Mais quand il est sur le terrain, dans l'ensemble, il est quand même toujours au même niveau. Sauf qu'on s'attend de lui ce qu'on croyait voir et peut-être pas ce qu'on voyait réellement en début de saison. Faudrait le voir évidemment dans de meilleures conditions, mais pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas croire en lui.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, comme on le dit souvent, quand tu es une nouvelle recrue, ça prend un peu de temps avant que tu trouves ta place dans ton effectif et tu trouves vraiment la manière la plus efficace de jouer. Et je pense qu'avec le temps, Pulido est en train de trouver un peu sa place dans cet effectif-là. Et je pense que c'est un joueur qui est un très bon recrutement pour Sporting Kansas City, qui a toujours eu besoin d'un attaquant de premier plan. Ils l'ont enfin. Il va falloir montrer que cet investissement-là a valu la peine. On s'attend à de grandes choses lors des séries éliminatoires. Passons au quatrième club. Et oui, quatrième, vous avez bien entendu, LAFC, Los Angeles FC. Est-ce que pour toi, Bob Bradley a perdu le touch, excusez-moi pour l'anglicisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment il a accepté de se défaire de Walker Zimmerman en défense centrale? Si on regarde la défense centrale, ça fait peur.
Et je suis pas sûr que la défense centrale ce soit le pire problème, parce que défensivement, les flancs se font très trop souvent manger. Les deuxièmes mi-temps, c'est souvent totalement n'importe quoi. Parfois dans le bon sens, parfois pas du tout. Je sais pas ce qu'il leur dit au vestiaire à la mi-temps, Bradley. C'est catastrophique, surface arrêtée, l'entrejeu, il n'arrive plus assez à contrôler le jeu. Atuesta, Kai Blessing, les trois ensemble, c'était magique, mais cette année, il en a souvent manqué un. On dirait que c'est un cocktail avec trois boissons moyennes. Quand tu les mélanges, ça goûte le paradis, mais quand il en manque une, c'est pas terrible. Donc, ça fait quand même beaucoup pour le Los Angeles FC, qui, d'ailleurs, j'ai vu le classement, j'ai fait un quatrième. Je pensais qu'ils étaient encore plus bas que ça. En plus, j'ai vu ce qui s'est passé à Vancouver cette fin de semaine. Ils sont méconnaissables par moments cette année. Il y a de temps en temps la magie de la saison dernière, mais souvent, elle manque.
Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, oui, il a perdu le touch. Ce n'est pas normal d'avoir une défense aussi faible. Déjà sur papier, hein, sans même regarder un match. J'en ai regardé, mais sans même regarder un match, quand tu vois que ton latéral gauche, c'est Jordan Harvey, qui a maintenant 35 ans, tu vois que ton latéral droit, je ne me rappelle plus de son nom, mais des fois c'est Blessing, mais des fois c'est Blackman. Bon, pas grand-chose. En défense centrale, tu te retrouves avec, bon, Segura, qui est quand même très bon, mais à côté, Dejan Jakovic. je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal que tu veux être un club qui gagne la MLS, la Coupe MLS, mais que tu te retrouves avec une défense aussi poreuse. Et voilà, pour moi, grosse erreur de la part de Bob Bradley, grosse erreur de jugement par rapport à sa défense, de se défaire de Zimmerman, mais aussi de ne pas se renforcer à ces postes-là. Par contre, ça a l'air qu'il nous a écoutés pendant qu'on préparait l'émission, parce que dans les deux derniers jours, ils ont recruté deux défenseurs, donc Jesus Murillo et Marc Segbers. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent aider dès cette année? Est-ce que tu penses qu'ils vont permettre à cet effectif-là et à ce club-là d'aller plus haut, ou est-ce que tu penses que c'est trop tard pour cette année?
Aucune idée, en plus je ne les connais pas du tout ces joueurs-là, donc c'est vraiment difficile à dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gros problèmes sur les flancs défensivement et que l'entrejeu se fait manger défensivement, donc il y a quand même beaucoup de boulot. Deux individualités méconnues qui arrivent comme ça, ça tiendrait du miracle, je pense.
Ouais, je suis complètement d'accord. En plus, il y a un qui vient d'Amérique du Sud. On sait qu'il y a toujours une petite période d'adaptation. Le deuxième vient de USL. Oui, des recrues défensives, mais je pense qu'il fallait donner ce contrat-là à Walker Zimmerman. Je reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, je trouve que c'était une grosse erreur de la part de Los Angeles. Donc pour moi, c'est un peu trop tard. Mais on verra. Possible que Bradley nous surprenne encore. On verra bien. Passons au cinquième club. Et oui, cinquième, FC Dallas. C'est cool d'avoir une académie et une bonne équipe réserve en USL League One, non? Est-ce que ça sert à quelque chose, tu trouves?
Ça fait longtemps que Dallas mise sur les jeunes et il y a un plan avec de la continuité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent des jeunes de différents âges. Mais un peu comme on l'a dit avec New York tout à l'heure, il ne faut pas que ça. Si tu veux être ambitieux, si tu veux être régulier, il faut aller aussi chercher des joueurs un peu comme Mauro Diaz, par exemple. Ce qui vient aussi à Dallas, contrairement peut-être à New York, c'est que ces jeunes du club deviennent des vétérans expérimentés, comme on a eu Zuzi et Bessler à Kansas City, et ça, je trouve que c'est très bon pour la MLS.
Ouais, écoute, oui, et je pense que contrairement à New York, il y a ces vétérans-là. On a Franco Jara qui est venu, bon, il a besoin d'un peu de temps, mais Reto Ziegler est ici. On a des joueurs comme Ryan Hollingshead, et je pense que c'est des joueurs, et on a aussi le défenseur central dont le nom m'échappe, qui est là aussi pour donner un peu, Matt Hedges, pardon, qui est pour donner un peu ce côté vétéran à ces jeunes joueurs-là. Et je trouve que j'aime ce mix entre les joueurs expérimentés et les jeunes joueurs. J'adore voir Dallas, c'est une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Deuxième situation, on a une très, très bonne défense et une attaque qui a du mal. Est-ce qu'on peut dire que Dallas est le club le plus Ligue 1 de la MLS?
Anthony Doveren te répondrait, mais non, c'est le Nashville de l'Ouest. mais non, parce que bon, Dallas, son flanc gauche est assez catastrophique offensivement et ça aide pas vraiment leur stade. Puis derrière, tout est solide, sauf sur la contre-attaque. Puis ça, c'est pas forcément non plus ce qu'on voit en Ligue 1.
Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est le club qui est le plus Ligue 1. Je pense que dans la MLS, il n'y en a pas des clubs de Ligue 1, en tout cas qu'on peut comparer à des clubs de Ligue 1. Je pense que Dallas, c'est un peu ce club-là, avec la bonne académie, avec de bons jeunes joueurs, quelques vétérans qui sont là depuis longtemps, et une équipe qui joue un peu plus défensivement qu'offensivement. Donc pour moi, je vois un peu la ressemblance. D'où ma question. Passons au prochain club, Minnesota United. C'est quand même surprenant de les voir sixième. J'ai une question pour toi, par contre. Ils sont où les supporters d'Atlanta qui se moquaient de Minnesota avant?
Bon, on verra quand même sur le long terme. Hein. Mais Minnesota a commencé petit, sans joueur désigné, faut pas l'oublier, mais en offrant du spectacle. Alors souvent, ça se retournait contre lui, mais au moins, tu avais des gros scores au début. Tu perds, tu n'as pas le niveau, mais le public voit plein de buts. En plus, ensuite, ils ont eu leur stade. Il y a une identité, il y a l'équipe qui s'est améliorée, donc le club avance pas à pas, et pour les supporters, ils vivent ces progrès avec leur club. Donc, pour revenir à ta question sur ceux d'Atlanta, c'est chouette de commencer fort, mais ensuite, la marge de progression, elle est évidemment beaucoup plus réduite, alors que Minnesota fait preuve d'une certaine modestie dans son discours et
Oui, effectivement, beaucoup de modestie dans son discours et je pense que c'est la manière à suivre selon moi. Je pense que les supporters d'Atlanta qui se moquaient au début ont eu vraiment la grosse tête et puis il faut faire attention quand on a la grosse tête parce que à un moment donné, elle explose et c'est effectivement ce qui arrive. Minnesota va très très bien, une très bonne équipe avec beaucoup beaucoup d'individualité. Juste dernièrement, leur dernière recrue avec Emmanuel Reynoso qui en 9 matchs a déjà donné 3 passes décisives, c'est quand même super bon. J'ai hâte de voir où ça va, comment ça va continuer, mais je pense qu'ils sont sur une très, 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 très bonne voie. La deuxième situation, j'ai une question pour toi, hein, là, Mathias, parce que c'est quelque chose qui, à chaque fois, me fait gratter ma tête. Pourquoi tu aimes autant Adrian Heath?
Bah, regarde, tu viens de le dire avec le jeu et tout ce que tu viens de dire, déjà, c'est des arguments en sa faveur. Et puis, que ce soit à Orlando ou à Minnesota, peu importe l'effectif à sa disposition, il a pendant très longtemps toujours essayé d'offrir du jeu positif tourné vers l'avant. Et en dehors des clubs qui jouent toujours le haut du classement, seul lui et Jim Curtin faisaient ça. Donc, c'est pour ça que ces deux entraîneurs que j'ai eu à cœur pendant très longtemps et que j'ai continué d'aimer et d'apprécier. Après, au début, à Minnesota, ça s'est dans un sens retourné contre lui parce que c'était casquette sur casquette. Mais au moins, avec tous ses buts, ça prenait du temps d'antenne à la TV. Donc, ça permettait de montrer le club. Ensuite, il a fait le nécessaire pour corriger les problèmes. Le jeu est plus prudent ces derniers temps. Il s'est adapté à l'effectif à sa disposition. Et désormais, les résultats parlent pour lui. Et la manière, comme dans ta réponse à la question précédente aussi.
Ben écoute, je l'avais dit en off, je te donne toute la minute pour essayer de m'en convaincre, je suis toujours pas convaincu, mais merci d'avoir essayé Mathias, non mais je blague, c'est pas un entraîneur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est un peu trop frileux de temps en temps, oui, il essaye d'être offensif, mais des fois c'est comme difficile, il a des joueurs de qualité, et je pense que c'est une équipe qui devrait être beaucoup plus dominante avec le talent qu'il a dans l'effectif, ça c'est mon point de vue, assez rapidement. Passons au prochain club, ça c'est un club... les Earthquakes de San Jose qui sont septième. Et oui, vous avez bien entendu, septième. Mine de rien, les Earthquakes sont actuellement qualifiés pour les playoffs. Explication?
Ils veulent jouer au foot. Ils veulent attaquer. Ce que je viens de dire de Heat et surtout de Curtin, mais Almeida, il semble le faire aussi. Et hormis le marquage individuel, qui est un peu spécial, mais c'est vraiment la marque de fabrique de sa défense, mais tous les autres efforts sont mis sur le jeu offensif. Alors, la défense ramasse des tonnes de buts, mais San Jose, en MLS, c'est une des meilleures équipes pour poser son jeu dans le camp de l'adversaire. Et en plus, il y a encore des traces du San Jose d'antan qui finit ses matchs en boulet de canon, il va chercher des points dans les dernières minutes. Donc, tout ça réuni, ça explique pourquoi, pour le moment, San Jose est au-dessus de la ligne rouge.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'adore voir San Jose. Si jamais il y a un club que j'adore voir ces matchs, c'est les Earthquakes de San Jose. Quand je regarde un match, je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir. Des fois en se moquant de leur défense, mais des fois aussi en admirant un peu leur jeu offensif parce que c'est vraiment, vraiment extrêmement beau à voir. Donc, voilà. C'est une des raisons pourquoi ils sont bien au-dessus, en septième position, dans l'Ouest. Chris Wondolowski. 37 ans. Est-ce que tu penses qu'il peut rempiler encore à nouveau? Parce que ce serait quand même triste de voir terminer le meilleur buteur de l'histoire de la MLS dans un stade tout vide, sans fans.
Ah, j'aimerais ça qu'il rempile. Après, bon, c'est toujours des questions de place dans l'effectif, de budget salarial, etc. Donc, je vais proposer de créer un nouveau règlement et de l'ajouter à la liste des 153 000 règlements de la MLS. C'est que tout joueur de MLS qui a plus de 36 ans et vient de passer les 10 dernières saisons au club ou plus ne comptent ni dans les places de l'effectif, ni dans le budget salarial. On appellerait ça publiquement « the Wonder Rule », comme on a appelé le jour désigné pendant longtemps « the Beckham Rule », et puis on trouverait un nom un peu plus officiel pour ça. Mais je trouve que ce serait sympa à faire pour Wondolowski, même après pour vraiment les joueurs qui sont fidèles à un club pendant quasiment toute leur carrière. Parce que bon, à cet âge-là, ils ne vont pas coûter super cher, ils ne vont pas jouer beaucoup, puis... ce serait bien de leur permettre finalement de continuer sans handicaper, entre guillemets, le club réglementairement.
Ah ben j'adore ton idée Mathias, je pense que c'est quelque chose... toi qui travailles pour la MLS, tu devrais la soumettre ton idée parce que ce serait quand même quelque chose de très très intéressant et je trouve que c'est vraiment dommage. Je ne veux pas voir ce monument du soccer nord-américain de la MLS quitter sans fan. Je serais très très déçu pour lui. Donc j'espère qu'il va remplir de nouveau, au moins pour un an, même pour un salaire modique. Je pense qu'il le doit aux supporters et en fait les supporters veulent vraiment le voir et lui dire au revoir comme il faut. Passons au prochain club. Écoute, les Whitecaps. Bis, mine de rien, les Wildcats sont actuellement qualifiés pour les playoffs. Explication?
Ils ne le sont pas, mais ça je vais expliquer pourquoi après. Mais pourquoi ils sont à cette position, c'est un, grâce à la victoire à 3 points, puisqu'ils ne font jamais de match nul, donc ils gagnent ou ils perdent, parce que c'est l'équipe qui a le plus perdu en MLS, mais ils ont gagné autant que le LAFC. Et aussi, il y a quand même des cadeaux de leur adversaire. Hein. On l'a vu contre Salt Lake, on l'a vu contre Toronto, on l'a vu contre Montréal. Et aussi à la faiblesse de certaines autres équipes. Cela dit, comme je disais tantôt, ils ne sont pas en playoff parce que tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs. Et si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, on compterait le nombre de points par match et à ce moment-là, il serait derrière Colorado et donc il ne serait pas au-dessus de la ligne rouge.
Ouais, ben c'est, tu as complètement raison et je pense qu'il va falloir que la MLS prenne une décision par rapport à ça. Je n'ai pas vu d'officialisation par rapport à ce règlement-là. Est-ce que c'est officiel? C'est ça qu'ils vont faire ou on ne le sait pas encore?
Ben, c'est dans les règlements depuis toujours, donc oui, c'est
ah,
ça qu'ils vont faire.
Ok, ben, je ne le savais pas. Ben, merci beaucoup, Mathias, d'éclairer à ma lanterne. Mais effectivement, si jamais ça s'arrête, ben, ce serait Colorado qui passerait devant. Par contre, moi, les Whitecaps, par rapport à tout ce qu'on dit par rapport aux Whitecaps, comme quoi ils sont nuls, ils sont merdiques et ainsi de suite, ben, écoute, cette victoire, je trouve en 18 matchs, c'est pas mauvais. Bon, 11 défaites. Je pense que si ces défaites-là, ils avaient pu faire 2 ou 3 matchs nuls, ben on aurait eu une autre histoire. Et pour moi, les Whitecaps vont beaucoup mieux que l'année passée. Et ça se voit. Donc, je vois de l'amélioration dans le jeu du côté des Whitecaps. Après, oui, ils ont de la chance de temps en temps, mais j'aime ce que je vois du côté de Vancouver. Deuxième situation, avec combien de gardiens pouvant occuper le poste de numéro 1 et numéro 2, ils vont finir la saison, Mathias?
Juste pour rebondir sur ta réponse précédente, il faudrait faire l'exercice pour tout le monde et refaire le classement, transformer toutes les victoires et toutes les défaites par un but d'écart en match nul et voir comment ça donne le classement. Parce que tu dis, ouais, ils ont 11 défaites, ça pouvait se transformer en match nul, mais les victoires aussi peuvent se transformer en match nul. Répondre à ta question sur les gardiens, aucune idée, mais par contre, si ça continue, c'est quoi qu'il arrive, ce sera Meredith le numéro 2.
Ça, c'est très vrai, Brian Meredith. À chaque fois qu'il a une chance de se mettre numéro 1, il le relègue en numéro 2, ils vont chercher un autre gardien. T'as complètement raison, effectivement. Mais en tout cas, j'ai jamais compris pourquoi il l'avait recruté à Meredith si jamais ils vont pas le faire jouer. Bref, pour ceux qui sont pas au courant, il y a 3 gardiens qui sont capables de jouer en numéro 1. On a Evan Bush qui vient d'être acquis de l'Impact de Montréal. On a l'ancien aussi gardien de l'Impact de Montréal, Max Crépo, qui est blessé. Et on a Thomas Hassall, le jeune formé par Vancouver. Donc 3 joueurs qui peuvent jouer numéro 1 ou numéro 2. Donc bref, assez compliqué. Passons au prochain
et
club.
Attends, parce que lors du dernier match de Vancouver, Bush a été assommé à un moment donné.
Oui, dit, non, oui.
Blessé, mais bon, finalement, tout allait bien. Mais bon.
Effectivement, il y a une question en conférence de presse. On lui a posé, ou bien après le match, on lui a posé la question, ça va, est-ce que tu vas bien? Il a dit, écoute, ça a l'air que c'est une position maudite pour ce club-là. Mais oui, ça va bien. Donc bref, même lui a eu peur à un moment donné. Passons au prochain club, le Real Salt Lake. Depuis les commentaires racistes de son ancien propriétaire, rien ne va plus. 3 victoires, 3 matchs nuls, 3 victoires, 3 matchs nuls, 6 défaites pour le Real Salt Lake. Peut-on dire que les joueurs ont été affectés par cette situation au complet?
Honnêtement, j'en sais rien. Faudrait être plus proche du club que je le suis, peut-être au sein du groupe pour le savoir. Je ne suis pas sûr que ça affecte directement les joueurs, ce genre de choses-là. C'était déjà une équipe régulière et le peu que j'en ai vu, c'est une équipe qui peine à trouver du rythme, à trouver son rythme. Salt Lake sait garder le ballon, mais les constructions ne vont pas au bout. À ce moment-là, ils perdent patience, ils prennent des risques, ils se font surprendre derrière. Il y a des qualités, mais quand tu es irrégulier déjà à la base dans une saison comme celle-ci où il n'y a pas de stabilité, c'est encore plus compliqué.
Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. J'ai pas beaucoup vu le club. Par contre, je parle régulièrement avec un des supporters du club. Il me dit, écoute, après cette situation-là, la presse du côté du club a été extrêmement négative. Les supporters ont vraiment senti quelque chose de lourd. Donc, je serais étonné de voir que les joueurs n'ont pas été affectés par ça. Ça a l'air qu'il y a eu quand même un gros impact sur la vie de groupe des joueurs, en tout cas. Prochaine situation, Giuseppe Rossi qui a signé pour Real Salt Lake en début de saison. Il est encore embêté par des blessures cette saison. Clap de fin, on y croit encore?
Avec les règlements de la MLS, c'est plus proche de clap de fin parce que il prend de la place, il prend de l'argent. S'il pouvait avoir un salaire très bas et être payé au rendement, on pourrait essayer, mais de nouveau, les règlements ne le permettent pas. C'est pas quelque chose qui se fait en MLS et il prend une place dans l'effectif, donc c'est compliqué.
Parfait. Pour les Rapids, tu as déjà mentionné qu'ils sont dixièmes. Tu as déjà mentionné qu'effectivement, ils sont dixièmes, mais ils ont 1,46 points, 1,46 points par match. Ce qui les placerait à ce moment-là, si jamais on va dans le classement des points par match, ils seraient sixièmes en MLS présentement. Est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est quelque chose qui va arriver ou est-ce que tu penses que la MLS va pouvoir trouver un moyen de mettre tous ces matchs reportés là? Parce que Colorado a eu cinq matchs reportés. Est-ce qu'ils vont pouvoir les mettre d'ici le 8 novembre et faire en sorte que les Rapids rattrapent tout le monde un peu?
Ça va être extrêmement serré, puis il va falloir voir comment la situation évolue. Puis il y a d'autres équipes aussi hein, qui commencent à avoir des matchs reportés. Donc moi, je pense que c'est déjà prévu, hein, les points par match, puis la MLS le sait, puis c'est déjà dans les règlements depuis toujours. En 2012, c'était déjà le cas, la première fois que je les ai vus et traduits pour la MLS. Donc ce qui serait idéal, évidemment, c'est de jouer le plus de matchs possible parce que ça équilibre le nombre de points par match aussi. Hein. Quand tu as joué deux matchs et que tu as deux victoires et que tu as trois points par match après deux matchs, c'est plus difficile de tenir ça sur 34. Tu as fait une règle plus générale avec ça. Mais sinon, c'est ça qui va arriver. Et puis, vu les conditions sanitaires, c'est pas non plus surprenant.
Ouais, effectivement. Écoute. C'est pas surprenant, bien évidemment, et je pense que à un moment donné, il faut trancher quelque part. Et je pense que un point par match, en suivant les points par match, je pense que c'est la façon la plus logique. J'espère qu'ils vont trouver quand même un moyen de jouer au moins plusieurs matchs en retard pour ne pas finir aussi avec juste 13 matchs joués, pardon, 19 matchs joués. Ils ont 13 matchs joués à la fin de la saison. Parce qu'ils ont juste joué 13 matchs alors que la plupart des équipes ont joué 18. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir au moins rattraper ces matchs-là. Dommage, parce que Colorado allait vraiment très bien avec quelques victoires dernièrement. Est-ce que tu y croyais à cette équipe-là cette saison, Mathias?
Ça fait deux ans de suite qu'on pointe Colorado parmi les équipes qui ont mieux recruté pendant l'hiver. Donc il y a de la qualité dans l'effectif. C'est un club qui donne l'impression de pas mal travailler, mais pas vite non plus. Donc ça prend beaucoup de temps. Le progrès est là. Mais on ne le voit pas forcément rapidement. Le potentiel est là aussi. Puis au tournoi MLS Is Back, je me souviens que Colorado et Houston, c'était deux équipes qui n'étaient pas forcément payées de leurs efforts, qui ne s'étaient pas qualifiées après le premier tour, mais qui méritaient peut-être davantage d'être dans la phase élimination directe que d'autres équipes qui s'étaient qualifiées.
Ouais, écoute, moi je trouve que je l'avais dit cette année, j'y croyais vraiment aux Rapids de Colorado, contrairement à l'année passée, parce que je trouve que cet effectif-là a été encore une fois bonifié cette année. L'année passée, on est passé d'un effectif l'année d'avant qui allait pas bien. L'année passée, ça s'est bonifié. Puis cette année, on voit encore une fois que c'était un effectif encore meilleur. Donc pour moi, j'y croyais vraiment à Colorado. Espérons que ils pourront à un moment donné jouer, hein, parce que beaucoup de joueurs qui ont été testés positifs à la COVID, au sein de cet effectif-là. Donc, espérons que ça va mieux de ce point de vue-là. Au prochain club, le Dynamo de Houston, qui est 11e, un peu, moi, je m'y attendais personnellement. Par contre, ils ont un joueur qui s'appelle Darwin Quintero. Il ne défend pas, mais on s'en fout, non?
Du moment qu'il ne marque pas à la 94e minute. Non. en fait, si l'entraîneur trouve l'équilibre pour qu'ils ne doivent pas défendre et que ses coéquipiers ne râlent pas parce qu'ils ne défendent pas et qu'ils doivent travailler et qu'ils ne sont pas contents, oui, on s'en fout, point de vue sportif. Par contre, en tant qu'amoureux du beau jeu, on s'en fout de ce que l'entraîneur y pense. Que Quintero continue de nous régaler, oui, on s'en fout.
Ouais, effectivement, sérieux, on s'en fout parce qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, ce joueur-là, il y a quelque chose qui peut arriver. Écoute, 7 buts, 8 passes décisives en 17 matchs. Écoute, pour moi, tu m'amènes un joueur comme ça à Montréal, par exemple, je dis à l'entraîneur, écoute, trouve un moyen pour que ça marche, il va pas défendre. Donc voilà, mon point de vue à moi. Passons au prochain point, la vente d'Albert Ellis, qui n'a jamais été remplacé. Est-ce que tu penses que c'est un désaveu de la part du club envers Tab Ramos, l'entraîneur du Dynamo de Houston?
Ellis, Kyoto, Torres, Manotas, lui, il est encore là, mais ces jours-là, c'était un peu l'ancien Houston, le Houston de Wilmer Cabrera, si on veut, et on sent le désir de passer à autre chose. Ça, c'est pas plus mal. Par contre, on n'a toujours pas trop bien compris qu'est-ce que c'était cette autre chose et vers où ils voulaient aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est pas forcément la vente d'Élise qui est un problème, c'est surtout qu'il est où le plan de la direction sportive du club?
Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, c'est le fait qu'il n'ait pas été remplacé. Je comprends. Ellis, il a donné de fiers services au Dynamo de Houston. On veut le laisser partir tenter sa chance en Europe, à Boa Vista, au Portugal. Par contre, il faut que cet effectif-là soit quand même logique. Et malheureusement, il n'y a rien eu en retour pour Abramos. Après, bon, le mercato n'est pas fini, hein. Il reste une douzaine de jours en date d'aujourd'hui. On verra ce qui va se passer, mais effectivement, je ne vois pas le plan. Je vois pas si... On dirait Montréal d'il y a 3 ans. Bref, passons au prochain club et le dernier club pour ce podcast-là et de ce MLS Blitz, c'est le Galaxy de LA. Comment peut-on s'imaginer remporter des matchs quand notre défense est aussi nulle que celle du Galaxy? Tu peux me faire comprendre ça?
Bon, attends, l'attaque de les Galaxies, c'est nul aussi. Donc, je me souviens d'un entraîneur dans ma jeunesse qui avait dit bah, ça va pas si mal dans notre équipe, on a seulement deux problèmes, on marque difficilement et on encaisse facilement. C'est un peu ça. Mais bon, la défense, comme tu l'as dit, est poreuse, le milieu de terrain se fait bouffer, cette équipe est incapable de se faire respecter à domicile, tu sais, même dans les conditions actuelles et avec un stade déserté, mais il y a un minimum, quoi. Se ramasser 3-6 contre Portland et 0-4 contre San José. À un moment donné, ça va, quoi. Fais-toi respecter.
Ouais, bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Moi, la défense me dérange beaucoup, mais si tu as raison, l'attaque, juste 21 buts marqués, c'est un des pires totaux. Bah, c'est le pire du côté de l'Ouest, parce que c'est une conférence qui est très, 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 très bonne offensivement. Par contre, mauvaise défensivement, mais ça, on reviendra là-dessus à un moment donné. Je pense qu'il y a un gros problème du côté du Galaxy. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe-là. Et je pense que ça affecte et le secteur défensif et le secteur offensif. Et ça me mène vers la dernière situation. Skeloto, viré, mérité. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une décision à un moment donné? Et on a beaucoup de rumeurs qui seraient remplacées par Robbie Keane. Tes
Bah
impressions?
pour Robbie Keane, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à la question, je t'avouerai, mais pour Skeloto, c'est tantôt on parlait avec Alonso d'entraîneur qui a du mal quand il n'a pas un effectif pour jouer le haut du classement. Et Skeloto, c'est tout à fait ça. Il veut faire jouer son équipe comme si elle visait le titre, sauf qu'elle n'a pas les qualités pour ça, et il développe pas les qualités dans son effectif pour compliquer l'adversaire qui est plus fort. Moi, je pense que s'il voulait être sauvé et garder son boulot, il aurait dû téléphoner à Nashville pour demander comment on fait, parce que justement, c'est ce que Nashville fait, c'est ce que les Galaxies devraient faire, sauf que c'est ce qu'ils font pas du tout.
Ouais, bah écoute, pour moi, Skeloto devrait être viré. Et je pense que si jamais ce serait Robbie Keane, je serais très déçu. Je pense qu'il faut un vieux briscard de la MLS qui vienne un peu faire des rangements et du rangement du côté du LA Galaxy. Est-ce que ce serait Kinnear qui est là déjà? Ou est-ce que ce serait quelqu'un, mais je pense qu'il faut un peu avoir un entraîneur, pas qui commence sa carrière d'entraîneur, mais quelqu'un qui sait comment gérer ce genre de
Ouais, mais
choses-là.
ramène pas Ben Olsen par pitié, quoi.
Non, surtout pas surtout pas Ben Olsen. Bref, voilà ce qui va clore notre MLS Blitz. Mathias, j'espère que déjà merci de t'être prêté à l'exercice. J'espère que t'as apprécié ça.
Ah, c'était sympathique. J'espère surtout que les auditeurs ont apprécié.
Ouais, ben moi aussi, j'espère que les auditeurs ont apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, à nous en parler, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Et nous, on va vous laisser pour cette semaine et on sera de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.